Élisée avait dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Va-t'en, toi et ta famille, et séjourne en immigré dans le pays où tu pourras, car Yahweh appelle la famine. Elle vient sur le pays pour 7 ans. » La femme agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna en immigré 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Elle s'en alla crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils vint crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, elle lui raconta tout, puis le roi lui désigna un haut fonctionnaire à qui il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Prions. Seigneur, on te remercie pour ce court récit qui nous éclaire encore davantage sur ta manière d'agir, Seigneur. Et nous voulons prier aujourd'hui que nous puissions une fois de plus te découvrir, apprendre à parler de toi. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es bon, parce que tout ce que tu fais est parfait et nous voulons dans les choses, dans la manière dont tu agis dans ce monde Seigneur, apprendre à te voir à l'œuvre dans nos circonstances, dans notre contexte mais surtout d'après ce que ta parole révèle. Nous voulons te prier Seigneur pour que ce message encore aujourd'hui puisse parler à nos cœurs, à nos âmes, être ce moyen de grâce par lequel tu veux nous fortifier, nous façonner. Et nous te prions pour que, au travers de ce texte, tu nous nourrisses pour notre semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez le concept ou si vous avez déjà eu affaire à ce qu'on appelle des rendez-vous divins. Vous savez, ce sont ces rencontres sur mesure qui nous paraissent tomber tellement à pic que c'est forcément la main de Dieu qui les a disposées pour nous. Souvent, on associe ces rendez-vous divins à quelque chose de positif. Par exemple, on va demander à Dieu de préparer d'avance les rencontres qu'il va nous permettre d'avoir, je ne sais pas moi, à l'évangélisation, ou quelqu'un qui va être la bonne personne qu'on va rencontrer dans un entretien, ou sur notre travail, qui nous obtiendra une bénédiction particulière, ou qu'on pourra bénir d'une manière particulière. Mais rarement, nous associons l'idée d'un rendez-vous divin avec quelque chose de négatif et nous avons tort. Ainsi, si je vous parlais d'un rendez-vous divin en rapport avec ce texte, vous vous diriez sans doute que c'est la Tsunamite et le roi que j'ai en vue, la Tsunamite qui revient de ce pays lointain et puis qui tombe sur le roi au moment même où on parle d'elle. Effectivement, j'aurais pu citer cela, mais que diriez-vous si je vous disais que la rencontre de cette famine qui vient même à la rencontre de cette femme était là aussi, là encore, un rendez-vous divin. Dieu est certainement le maître de nos rendez-vous, mais certains ne sont pas pour notre plaisir immédiat. Et ce texte, je crois, nous apprend au moins 3 choses. 3 choses à cet égard. La première chose, c'est que rien n'est jamais acquis dans ce monde. La deuxième, c'est que rien n'est simple. Et la troisième, c'est que dans ce monde, rien n'est dû au hasard. Voilà ce que nous allons regarder ensemble au travers de ce texte aujourd'hui. Et la toute première chose qu'il faut souligner, ça saute aux yeux, je veux dire, quand on regarde le début du récit, c'est que rien n'est jamais acquis dans ce bas monde, rien n'est jamais acquis dans ce monde. Regardez les versets 1 et 2. Le récit s'ouvre donc sur cet avertissement qu'Élisée donne envers cette femme dont il avait ressuscité le fils. Alors, qui est cette femme? Eh bien, c'est la fameuse Tsunamite. Celle qu'Élisée avait rencontrée en 2 Rois chapitre 4, une femme, vous vous souvenez, qui avait un certain niveau social, une femme de distinction, qui avait fait d'ailleurs construire une chambre pour le prophète. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait même discuté de votre niveau de confort, on avait expliqué ce que c'était que le confort pour Élisée, et entre vous et lui, il y avait quand même des attentes très, très différentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Donc cette femme avait fait construire une chambre pour le prophète, et puis elle avait eu un fils suite à une prophétie d'Élisée. Elle voulait rien, elle demandait rien, mais Élisée voulait quand même la bénir, et il lui avait fait cette prophétie en lui disant qu'elle aurait un fils. Mais voilà, le fils, en grandissant, était mort, peut-être une insolation, Et Élisée, c'est dans le chapitre 4 toujours, eh bien, il l'avait ramené à la vie, il avait ressuscité le fils de la veuve, et en cela, Élisée était devenu comme son maître Élie, lui aussi avait fait une résurrection. Vous vous souvenez à l'époque, on avait même dit qu'Élisée est bel et bien le nouvel Élie. Voilà qui est cette femme qu'Élisée rencontre à nouveau. Pardon, que le texte nous présente à nouveau. Alors, de quelle famine s'agit-il ? Très intéressant, on vient de décrire une famine lors du siège de Samarie, mais ce n'est pas si évident que ce soit la même famine qui soit en vue ici. Le lien avec la famine de Samarie, qui était due à un siège, d'ailleurs, n'est pas avéré. Cette famine a duré longtemps et il n'y a pas dans ce texte d'indication temporelle qui puisse la lier à un siège particulier. Je veux dire, ce n'est pas juste la ville de Samarie, à moins que le siège de Samarie ait créé une famine dans le pays. Mais apparemment, il fallait qu'elle quitte le pays d'Israël pour se rendre chez les Philistins. On sait que la Tsunamite possédait un champ, que ce champ il était en dehors de Samarie, ce qui laisse à penser que ce n'était pas le siège qui était la raison de cette famine, c'est complètement autre chose. Mais le point capital de ce que ces deux premiers versets nous montrent à propos de ce texte, eh bien, c'est que cette famine, elle est littéralement appelée, invoquée par Yahweh lui-même. Yahweh appelle la famine, dit le prophète. Autrement dit, cette famine n'est pas fortuite. Le prophète ne la met pas sur le compte des circonstances. D'ailleurs, même s'il la mettait sur le compte des circonstances, y a-t-il la moindre circonstance qui soit en dehors de Dieu, n'est-ce pas ? Mais pour le prophète, c'est bel et bien Yahweh qui activement, directement appelle la famine sur ce pays. Et ça nous rappelle, encore une fois, si jamais ce n'était pas clair dans ces cycles d'Élie et d'Élisée, que Yahweh n'est pas un distributeur de bonbons. Yahweh n'est pas quelqu'un qui va vous donner des marshmallows pour votre barbecue. Yahweh n'est pas un distributeur de bénédictions automatiques. Tu pries une bénédiction, tu pries pas, tu n'auras pas de bénédiction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et à vrai dire, quand on lit que Yahweh envoie la famine sur le pays, pour les premiers lecteurs, là encore, le signal, il est clair. Il s'agit d'une famine qui est appelée, une famine qui est décrétée par Dieu dans un contexte de désobéissance d'Israël, et ça ne pouvait qu'être qu'un jugement. Je ne vais pas vous relire les passages de malédiction du Deutéronome qui y sont afférents, mais si vous êtes un Israélite du 9e siècle, si vous savez que votre peuple dans son ensemble a complètement délaissé l'alliance de Yahweh, vous avez entendu les prophéties d'Élisée, vous savez que Baal ou des dieux similaires, ou simplement le fait que ça a été détourné dans l'adoration de Yahweh, que l'alliance n'est pas respectée, vous savez que c'est ce qui se passe dans votre pays, vous voyez cette famine qui vous frappe, et si vous connaissez un tant soit peu, ne serait-ce que en l'ayant entendu le livre du Deutéronome, vous savez à un moment ou à un autre que cette famine, elle n'est pas fortuite. Le prophète dit que cette famine est appelée. Le premier lecteur lit ça, il se dit c'est une malédiction de l'Éternel parce que nous avons brisé l'alliance. En d'autres termes, Yahweh continue de juger son peuple, mais il fait en sorte que les siens, cette Tsunamite en particulier, n'aient pas à en pâtir. Dieu juge. Et Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, mais Dieu prend soin des siens. Il garde de manière privilégiée ceux qui lui appartiennent, et c'est exactement ce que ce texte nous dit dès les premiers versets. Alors, qu'est-ce qu'Élisée conseille à cette femme ? Qu'est-ce qu'il conseille à cette Tsunamite ? Eh bien, il lui conseille de vivre en immigré là où elle pourra. C'est vraiment intéressant qu'il formule les choses ainsi, je trouve. Donc, il ne lui donne pas d'instruction réellement spécifique, il ne lui dit pas « va à tel endroit », il lui dit « va où tu pourras », ça commence déjà bien, « va où tu pourras », c'est-à-dire à l'endroit que tu pourras atteindre en marchant, parce qu'elle n'était pas seule, elle part avec sa famille quand même, on ne sait pas, on sait qu'elle avait un jeune fils, mais est-ce qu'elle avait d'autres personnes de sa famille avec elle ? On n'en sait rien à ce moment-là. Elle part donc, et c'est l'endroit qu'elle pourra atteindre, et l'endroit où elle pourra manger à sa faim. Et là où elle restera, eh bien, elle sera une immigrée. Être une immigrée, ce n'était certainement pas la condition la plus enviable au 9e siècle avant Jésus-Christ. Généralement, quand vous êtes un immigré au Québec ou au Canada en général, c'est que vous avez passé toute une série de contrôles et vous êtes plutôt à l'aise dans la vie. Moi, j'ai noté cela, c'est que quand on cherchait un logement, quand on est arrivé avec Elodie, on était très surpris de l'accueil positif qui était fait aux immigrés en général. aux Français en particulier, parce qu'on savait qu'ils avaient satisfait à une série de contrôles et qu'ils pouvaient prouver qu'ils avaient les moyens de payer un logement, par exemple. Vous voyez, on savait que des immigrés, venir au Canada en tant qu'immigrés, c'est généralement vu de manière plutôt positive. Mais au IXe siècle avant Jésus-Christ, avec les nationalismes exacerbés, toutes ces guerres, notamment la guerre syro-éphraïmite qu'on décrit, la guerre entre la Syrie et Israël, eh bien, être un immigré, ce n'était certainement pas la condition la plus enviable. Vous pourriez peut-être même faire un parallèle avec tous ces migrants qui dorment dans la rue, dans différentes grandes villes d'Europe, chose qu'on ne connaît pas vraiment ici en Amérique du Nord, si ce n'est au sud des États-Unis. En fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'elle n'est pas bannie d'Israël, cette veuve. Elle va, pour un temps, elle est immigrée, là où elle pourra, mais à un moment ou un autre, l'expression même indique qu'elle pourra et même qu'elle devra revenir. Et donc cette tsunamite, elle part, c'est ce qu'on voit au verset 2, et elle se rend au pays des Philistins. Et je crois que son action, son départ, le fait qu'elle parte avec sa famille et qu'elle aille au pays des Philistins, à mon avis, ça fait écho à deux récits particuliers que très probablement les premiers lecteurs connaissaient bien. Déjà, elle part dans une contrée qui était ennemie, qui a longtemps été la puissance ennemie d'Israël, les Philistins, qui étaient en déclin à cette époque-là. Mais ce n'est pas sans rappeler David, lorsqu'il était en fuite et qu'il s'est réfugié chez les Philistins alors que le roi Saül le poursuivait. Et puis, l'autre texte qui, à mon avis, fait largement écho ici, ou qui est largement, auquel il est largement fait écho, eh bien, c'est le livre de Ruth. Est-ce que vous vous souvenez Naomi, pendant cette famine qu'on avait clairement identifiée comme étant un jugement qui doit s'en aller dans un pays ennemi, au pays de Moab, avec sa famille? Et pour les premiers lecteurs, ça paraît presque immanquable. La situation de cette femme pieuse, qui était connectée à Yahweh, qui aimait le prophète Élisée, est très proche de celle de Naomi, en quelque sorte. Et ici encore, on a cette évocation de ces textes qui sont un peu plus anciens que celui qu'on avait là. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est le caractère dramatique de l'annonce. On a juste deux versets, et comme à son habitude, le texte est extrêmement laconique, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas beaucoup de détails sur le contenu de ce passage, mais la situation de la tsunamite, c'est un véritable renversement. Je veux dire, elle était aisée, elle avait les moyens de construire une chambre au prophète, elle avait un champ, elle avait des animaux, elle avait probablement des biens en grand nombre, en tout cas, elle était plus à l'aise que la plupart des gens. On pourrait parler de classe moyenne, carrément, peut-être, je pense qu'on pourrait dire ça. Si on devait faire un parallèle avec notre époque, une famine s'en vient, elle n'a plus rien. Je pense à cet homme dont j'ai eu beaucoup de peine à retrouver le nom. Je ne l'ai pas retrouvé, à vrai dire, en préparant ce message, mais je sais que cet homme a existé. C'était un homme qui avait anticipé les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un homme prévoyant, il avait un peu d'argent, et il a décidé d'aller se réfugier sur une île pour échapper les horreurs de la guerre. Il a donc choisi une île dans le Pacifique, et il s'est avéré que cette île est devenue celle où les combats ont été les plus féroces pendant la Deuxième Guerre mondiale entre les Japonais et les Américains. C'est probablement l'île de Tarawa. J'ai été incapable de retrouver cette référence. Mais vous voyez, des fois, on fait des plans, on croit qu'on maîtrise notre vie, et vient un cataclysme imprévu, et tout est balayé, et on n'a plus rien. Et l'un de mes passages préférés de la Bible, en ce qui concerne la souveraineté de Dieu, c'est le chapitre 27 du livre des Actes. Lorsque les hommes qui tenaient Paul en otage s'apprêtent à l'emmener à Rome, ils sont dans le port de Nicopolis. Paul leur dit « Je vois que la navigation va être dangereuse, on ne devrait pas partir. » Eux, ils voient un petit vent d'est et le texte dit « Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent la voile. » Quelle grave erreur que de se croire maître de son destin. Et regardez la suite du récit, ce n'est qu'une succession de tempêtes, de bateaux qui tanguent pour qu'à la fin, le bateau arrive au bord de l'île de Malte, il explose complètement et ils sont obligés de nager. Ils disent, ceux qui peuvent nager, nager, et ceux qui ne peuvent pas nager, ramassez un morceau de bois et essayez de nager. Vous voyez, c'est un peu ça la fin de l'histoire de Acte 27. Le bateau est complètement explosé et par la grâce de Dieu, tous les hommes sont sauvés, selon la prophétie de Paul. Mais regardez ce qui arrive aux gens qui se croient maîtres de leur destin. Vous n'êtes pas maître de votre destin. Et ne comptez pas sur ce que vous avez de côté, sur votre argent ou sur votre possession dans ce monde. Tout peut être balayé du jour au lendemain. Dites-vous que s'il y avait une personne qui peut représenter la classe moyenne canadienne aujourd'hui, c'était cette tsunamite au 9e siècle avant Jésus-Christ. Du jour au lendemain, elle doit tout quitter et partir. Et regardez les récits de guerre récentes. Regardez ce qui s'est passé en Syrie récemment. Regardez les gens qui ont dû s'enfuir de leur pays, même s'ils avaient des possessions, même s'ils avaient des biens, rien ne pouvait leur permettre de se prémunir et de prévenir le cataclysme qui leur est tombé dessus. Vous n'êtes pas maître de votre destin et rien n'est jamais acquis dans ce monde. C'est ça le message que nous donnent ces deux premiers versets. Comptez donc sur celui qui possède vos possessions, sur celui qui possède vos circonstances, celui qui possède vos âmes et qui les a sous contrôle. Voilà comment le texte ici s'ouvre. Rien n'est simple dans ce bas monde et c'est ce que la tsunamite nous apprend. La deuxième chose que ce texte nous montre, c'est que non seulement rien n'est jamais acquis, mais en plus, rien n'est simple, pardon, je prenais un peu d'avance il y a quelques instants, rien n'est simple dans ce bas monde. Mais déjà, il y a quelque chose qui, au milieu de ce cataclysme, sonne comme une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que même nos pires famines ont une fin. Même nos pires famines ont une fin. Regardez la famine. Elle est dramatique dans ce texte. Et on n'ose même pas imaginer les conséquences sur les personnes et leur environnement quand on sait qu'une famine a duré 7 ans. J'ai regardé hier soir quelques reportages télévisés sur la guerre au Yémen, on a très peu d'images, mais regardez la condition des gens qui vivent là après 4 ans de guerre et une famine qui a commencé il y a 2 ou 3 ans. Les enfants sont en train de mourir de faim, ils sont complètement émaciés. Regardez il y a quelques années ce qui se passait en Éthiopie et ce qui se déroule encore là-bas en Éthiopie et en Érythrée. Vous vous rendez compte qu'une famine, c'est cruel. 7 ans de famine, ce n'est pas sans laisser de traces, ce sont des morts, des horreurs comme celles qu'on a lues dans le texte de dimanche dernier où une femme a mangé son propre fils. On se rend compte que c'est ça qui se passe durant une famine longue de 7 ans. Une telle famine peut laisser des traces, mais implicitement le texte nous dit, eh bien à un moment cette famine elle prend fin. Et nous devrions garder en tête qu'il existe une loi invariable dans ce monde, c'est que toute chose a une fin. Vous avez une fin, ce monde a une fin, mais vos épreuves aussi auront une fin. Et si vous avez l'impression que votre vie n'est qu'une succession de souffrances et de galères, déjà remettez-les en perspective, regardez cette souffrance de la tsunami, je pense que c'est bien aussi des fois de regarder ce que vivent les autres pour qu'on comprenne que nous sommes tellement prompts à nous apitoyer sur notre sort. On a des bonnes raisons parfois d'être découragés, mais il faut se souvenir que tôt ou tard, ces choses prendront fin. Paul pouvait dire au milieu de sa cellule « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Chaque fois que je lis ce passage, je suis impressionné. Oui, moi aussi j'ai envie de dire « Christ est ma vie », mais j'ai du mal à m'approprier la deuxième partie du verset et de me dire « Mais la mort m'est un gain ». Vous savez quoi ? C'est vraiment difficile à concevoir de se dire que de manière extrêmement pratique, je puisse considérer que la fin de ma vie est meilleure à ma vie elle-même. Vous vous rendez compte de ce que disait Paul ici ? Il savait que d'une manière ou d'une autre, il serait libéré, il était en prison au moment où il dit ça, il serait libéré, il irait avec Christ, et il savait que c'était le fait de mourir qui serait de loin la meilleure option plutôt que de rester dans cette vie. Mais voilà qui aiguisait sa patience, son emprisonnement ne durerait pas éternellement. Et quiconque a Christ comme garant, sait que ses souffrances ne seront pas éternelles. Et cela devrait puissamment nous encourager dans les moments difficiles. Donc même les pires famines ont une fin. Et cette famine, eh bien, elle a une fin. Et la tsunamite, voyant que cette famine est finie, eh bien, elle rentre. Alors on l'imagine, le texte ne dit rien, mais on l'imagine rentrer à vide, le cœur serré par l'épreuve par laquelle elle est passée. Et on sait que du temps des juges, c'était la même chose pour Naomi, elle était rentrée amère, à cause de l'affliction dont elle était l'objet. Et à bien des égards, je vous le redis, la situation de la tsunamite rappelle celle de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Alors donc, cette tsunamite, elle rentre, et qu'est-ce qu'elle fait à peine rentrée ? Elle crie vers le roi pour retrouver ses terres. Là encore, le commentaire est très rapide, très succinct, mais ça soulève un certain nombre de questions. Première question, pourquoi donc avait-elle perdu ses terres ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Les commentateurs ne sont pas tous d'accord là-dessus. On ne comprend pas forcément pourquoi cette tsunamite est obligée de réclamer ses terres au roi. Il y a un commentateur qui s'appelle Jones qui dit que il y avait un système de terres en jachère. Vous savez, les terres étaient mises en jachère sur une période de 7 ans. Et sur cette base, eh bien, il estime que les terres qui étaient laissées comme ça à l'abandon, eh bien, la couronne les reprenait et en prenait possession avant de les rendre, elle les gardait en tutelle, en quelque sorte, jusqu'à leur restitution aux propriétaires légitimes. Très franchement, j'ai du mal à imaginer une organisation où les rois prenaient en tutelle les terres des gens qui étaient absents. Moi, j'ai plutôt tendance à voir les rois descendants d'Akab comme des personnes qui prenaient possession des terres et qui ne voulaient pas les rendre. Vous voyez ce que je veux dire ? L'autre chose, c'est que le seul exemple où on voit un roi qui s'approprie une terre dans l'Ancien Testament, c'est le grand-père de ce roi, c'est Akab. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tue un homme pour s'approprier la terre. C'est l'histoire de la vigne de Naboth. À mon sens, c'est vu extrêmement négativement et je ne crois pas que ce soit la bonne explication. Je pense que la meilleure explication, la plus probable en tout cas, c'est qu'en période de guerre, il est tout à fait possible que le roi il ait décidé de prendre ses terres pour garder du fourrage ou avoir des ressources avec ses terres abandonnées. Ou tout simplement, il ne faut pas exclure cette idée-là, c'est qu'il se soit approprié la terre parce qu'il a profité d'une situation, il a vu un champ qui traînait en quelque sorte et il a décidé de le récupérer. En d'autres termes, le roi aurait fait ça par méchanceté. Et donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'explication, cette Tsunamite, elle n'a plus ses terres et elle est obligée de rentrer et de crier au roi. Et le terme traduit par ce cri, en quelque sorte, kara en hébreu, eh bien, c'est plus qu'une simple requête. C'est comme une réclamation officielle, c'est comme une plainte légale envers la couronne. Autrement dit, la Tsunamite vient pour faire valoir ses droits sur ses terres. Mais à ce stade, moi, il y a une chose qui m'étonne. C'est qu'elle vient, et le texte dit, elle vient avec son fils. Mais cette Tsunamite, elle avait un fils, mais elle avait aussi un mari. Pourquoi le mari de la Tsunamite qui vient réclamer ses terres, qu'il cultivait pourtant avec zèle, n'est-il pas mentionné ? Le plus probable, là encore, on en est réduit à des conjectures, mais c'est vraiment probable, c'est que son mari était mort, soit pendant la famine, soit à un autre moment, exactement comme Élimélec, le mari de Naomi dans Ruth. Vous vous souvenez sans doute de ça. Et ici encore, vous voyez, le parallèle qui est tiré entre Ruth et ce récit est particulièrement intéressant. Comme Naomi, la Tsunamite doit partir dans une terre étrangère à cause de la famine, comme Naomi, elle se retrouve dans le pays des ennemis les plus emblématiques d'Israël, comme Naomi, elle a probablement perdu son mari, et on imagine que comme Naomi, en revenant dans le pays, elle devait être particulièrement amère. Difficile de dire, très franchement, difficile de dire si les premiers lecteurs arrivaient à faire ce parallèle, mais en tout cas, la coïncidence est troublante. Et si son mari est mort à cette femme, ce qui est le plus probable, alors pour elle, la situation, elle est critique. Comprenez bien. Comment cette femme pouvait-elle récupérer les terres qui appartiennent à sa famille alors que, très probablement, les terres devaient être réclamées directement par son mari ? Ici, le parallèle avec le livre de Ruth, ça invite à considérer l'idée de ce qu'on appelle un rédempteur. Vous vous souvenez, c'est ce qu'était Boaz pour Ruth. Pour récupérer sa vie et ses terres, en quelque sorte, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir les gérer, eh bien, il fallait que Naomi fasse appel à un rédempteur. Et Boaz, elle va envoyer Ruth parce qu'elle était plus jeune, Boaz va se marier avec Ruth, et en se mariant avec Ruth, va acquérir les terres et Ruth en même temps. Mais a priori, la Tsunamite n'avait pas cette solution, puisqu'elle s'en va crier au roi. Alors, quelle que soit la complexité de la situation, ce qui semble transparaître, c'est que c'était le roi qui avait ses terres, et que la Tsunamite, elle était dans une situation critique. Pas de mari, pas de revenus, aucune assurance de récupérer ses terres. Plein d'hypothèses peuvent être faites sur la question, mais on voit que pour la Tsunamite, c'était en quelque sorte une question compliquée, une question qui n'était pas simple. Rien n'est simple dans ce monde, cher ami. La Tsunamite l'expérimente ici, et c'est probablement en dernier recours qu'elle se tourne vers le roi. Elle n'a plus rien, elle rentre au bout de 7 ans, elle ne peut même pas récupérer ses terres. Et compte tenu de ce qu'on sait des rois d'Israël à cette époque, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation semble bien compromise pour elle. Donc on voit que rien n'est jamais acquis, mais en plus de cela, rien n'est jamais réellement simple. Si vous avez un doute là-dessus, regardez la complexité, ne serait-ce que des affaires administratives que vous avez à faire dans cette vie. Faites un parallèle avec ce que cette femme vivait. Nous savons que rien n'est jamais acquis et que par nous-mêmes, nous ne pouvons arriver à rien parce que rien n'est simple. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que dans ce monde, rien n'est dû au hasard. Et c'est cela ce vers quoi notre texte pointe. Rien n'est dû au hasard dans ce monde. Et au verset 4 et 5, notre texte s'écarte de cette femme, de cette tsunamite, et tout d'un coup, il y a comme une transformation, un shift dans la narration, et le texte se focalise sur le roi d'Israël. Celui-ci, ce roi d'Israël, dans cet aparté qui est mentionné ici, il s'entretient avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Alors là encore, très compliqué de voir comment Géasi était encore le serviteur d'Élisée après qu'il ait été chassé par Élisée au moment de la guérison de Naaman. Mais à mon avis, le plus simple à considérer, c'est que le texte fait mention de Géasi comme l'ex-serviteur d'Élisée, en quelque sorte. Elle le décrit par son statut passé et non pas par son statut actuel. C'est un peu comme si le texte disait « Géasi était serviteur de Dieu à l'époque ». Ainsi, cette mention ne donne aucune indication sur le fait que Géasi était encore le serviteur d'Élisée. Et ce qu'on voit, par contre, c'est que le roi qu'on pensait être comme opposé à Élisée, eh bien, il a envie d'entendre parler d'Élisée. Il veut entendre parler de ses hauts faits, et on est loin de l'attitude du roi lors de la prise de Samarie. Ça suggère que c'est une époque complètement différente, voire peut-être un roi différent. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on en était arrivé à un point où le prophète Élisée, ses récits, ses histoires, elles étaient connues de tous, et on voit qu'elles étaient comme racontées à la cour du roi. Ça devenait un objet d'histoire qui était donné, et ça démontre son impressionnante renommée avant les réseaux sociaux, avant Facebook. Alors Géasi s'exécute et parle au roi de tous les hauts faits du prophète. Et c'est la scène qui nous est décrite au moment où la tsunamite rentre dans la salle. Vous avez Géasi qui est en train de raconter des histoires sur Élisée au roi. Je crois qu'ici, il y a un certain nombre d'illustrations qui peuvent nous venir en tête. Quand j'étais jeune, il y avait une série qui s'appelait « L'homme qui tombe à pic ». Vous avez connu ça au Québec ? Ça devait porter un autre nom ici. C'était l'histoire d'un homme qui était un cascadeur, il s'appelait Colt Silvers, et il arrivait toujours au bon endroit, au bon moment. La série s'appelait « L'homme qui tombe à pic ». Un tel homme, c'est le rêve que vend tous les films d'Hollywood, n'est-ce pas ? Le héros qui arrive au bon moment, au bon endroit, avec le parfait timing, c'est presque du domaine du fantasme. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose que Hollywood nous vend comme quelque chose d'extraordinaire, James Bond qui arrive au bon moment, au bon endroit, mais c'est presque quelque chose de... J'allais dire, c'est presque, ça l'est, c'est quelque chose de concret pour quiconque se confie en Dieu. Laissez-moi vous raconter ma propre histoire personnelle. Vous la connaissez certainement. Vous savez que j'ai été tiré d'un milieu qui était particulièrement défavorable. Je vendais de la drogue avant d'être chrétien. J'ai fait de la prison pour trafic de drogue. Mais il y a un élément qui m'a toujours frappé dans mon témoignage personnel. C'est la manière dont Dieu s'est rappelé à moi. Déjà, j'avais commencé à penser à Dieu alors que j'étais en prison. Et quand j'étais en prison, je priais. Et je disais à Dieu, si tu me permets de revoir tel ami, un ami qui s'appelait Joël, si tu me permets de le revoir, si juste tu me permets de reprendre contact avec lui, je retournerai à l'église et je te servirai et tu seras satisfait de moi. Mais pour ça, délivre-moi de la prison. Et je priais comme ça, délivre-moi et je te servirai. Délivre-moi et je te servirai. Donnant. J'avais rien compris à la grâce. Je pensais que j'allais donner à Dieu et que Dieu allait me donner. Quand je suis sorti de prison, il n'y avait plus de grâce, il n'y avait plus de Dieu, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Joël, il n'y avait plus d'église, je voulais revoir personne, d'accord ? Et quelques jours après ma sortie de prison, alors que j'étais en train de menacer la personne qui m'avait dénoncé, alors que j'étais en train de retourner à ma mauvaise vie en quelque sorte, on cogne à la porte. Et la porte s'ouvre, et c'était Joël. Et moi je m'étonne, et je me dis, waouh, ça fait 5 jours que j'ai prié pour toi, j'ai complètement oublié, et là, d'un seul coup, tu viens, tu cognes chez moi, mais je suis quand même très surpris, ça fait 8 ans que je ne t'ai pas vu. En plus, ce n'est pas chez moi qui cognait, c'était chez mes parents. Et je m'assois et je me dis, c'est quand même incroyable. Et lui, je me rappelle, il m'écoute, il me dit simplement, bah, c'est Dieu qui te cherche. Et moi, j'ai pris ça comme une parole venant directement de Dieu. Le dimanche suivant, j'étais à l'église. C'est seulement quelques semaines après que j'ai compris ce qui s'est passé. Écoutez bien ça. Joël habite à La Garenne-Colombes. Il a une maison ancienne à la Garenne-Colombes et les plafonds dans sa maison font 3 mètres de haut, là où la plupart des plafonds en France font 2,40 mètres de haut. Joël avait embauché quelqu'un pour refaire la tapisserie, rechanger le papier peint chez lui. La personne qu'il avait embauchée a mal compté la hauteur des plafonds et a compté 2,40 mètres au lieu de 3 mètres. Vous suivez toujours ? Ainsi, quand il a commencé à poser le papier, il est arrivé sur le dernier mur, il n'y avait plus de papier, il est retourné chez le vendeur de papier, le vendeur de papier n'avait plus la même couleur de papier, et la personne que Joël avait embauchée a encaissé le chèque et il a disparu. Ce qui veut dire que Joël se retrouvait dans une maison avec tout un mur qui n'était pas fini. Alors Joël s'est fâché et il a pris une semaine de congé pour finir le papier peint chez lui, chose qu'il faisait très rarement. Pendant cette semaine de congé, il apprend que l'un de ses vieux professeurs part à la retraite. Alors il décide d'aller le voir. Or, ce professeur enseignait dans un collège juste à côté de là où habitaient mes parents. Il va juste voir ce professeur, passe du temps avec lui, puis en sortant, il se dit « Oh, j'ai juste à côté des parents de Guillaume, ça fait 8 ans que j'ai pas vu Guillaume, je sais que ça va pas, j'aimerais bien juste prendre de ses nouvelles. » Alors il va chez mes parents et il cogne à la porte. Et moi, chers amis, j'ai eu tellement un pressentiment que c'était la police, que j'étais prêt à me sauver par les toits, comme l'homme qui tombe à pic dans les films américains, vous voyez. Et quand elle a ouvert la porte et que j'ai vu que c'était Joël, j'étais tellement étonné. Mais vous voyez comment toutes les circonstances dans mon histoire ont juste été calibrées sur mesure pour qu'au moment précis où il vienne cogner à la porte, j'étais derrière, et quand il a ouvert, j'étais là. Incroyable comment Dieu avait parfaitement géré le timing de mon histoire personnelle. Eh bien, regardez là encore, c'est au moment même où Géasi raconte le récit de la résurrection du fils de la Tsunamite que la Tsunamite entre pour crier au sujet de sa maison et de son champ. Vous imaginez le choc, vous imaginez comment il devait être tétanisé en voyant ça, et vous avez juste Géasi qui dit « Bah, en fait, c'est elle. » Je suis en train de te parler d'elle, mais c'est elle, voici mon Seigneur, voici la femme, voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Qu'est-ce que le roi pouvait dire ? Est-ce qu'il pouvait dire, c'était un hasard ? C'est exactement ce que j'ai dit à Joël. Écoute, ça a l'air d'être un hasard, mais j'avais prévu de revenir à l'église, donc je vais revenir. C'est ce que je lui ai dit. Pensez que le roi, il pensait pareil. Est-ce que le roi pouvait dire, c'est du hasard ? Est-ce que cette arrivée était fortuite ? Quelle était la probabilité qu'une telle circonstance se produise ? Chers amis, le timing de Dieu est parfait. Et alors que la Tsunamite n'avait que peu d'espoir de récupérer ses terres et qu'elle était seule pour faire vivre son fils, voici que Dieu l'a fait arriver au bon endroit, au bon moment. Sa meilleure rhétorique n'aurait pas suffi. Ses meilleurs arguments les plus polissés n'auraient probablement pas marché pour récupérer sa terre. Mais arriver à ce moment-là, à cet endroit-là, au moment où on parle d'elle de cette façon, il n'y avait rien de mieux pour qu'elle puisse récupérer sa terre. Il fallait un argument imbattable. Il fallait que le roi sache que toute cette situation était sous le contrôle de Yahweh. Et l'ensemble de la Bible nous montre que Dieu est le maître du timing. Joseph, qui est appelé à la cour de Pharaon, au temps marqué. Ruth, qui glane dans les champs. Que dit le texte ? Ruth glanait dans les champs et il se trouva par bonheur que c'était le champ de Boaz, son parent. Vous vous souvenez de ça ? David, qui apporte de la nourriture à ses frères juste au moment où Goliath leur lance ce défi. Jésus, qui meurt au temps marqué pour des impies. Aucune de ces choses n'était fortuite. Et aucune des choses qui se sont passées aujourd'hui, durant votre journée, n'ont été fortuites. Il n'y a pas un centimètre carré de cette terre sur lequel Dieu ne puisse dire « c'est à moi, je règne et je le contrôle ». Son contrôle absolu est sur absolument toute chose. Comment pouvons-nous douter lorsque nous sommes face à de tels récits ? Comment encore pouvons-nous invoquer le hasard ? C'est Spurgeon qui dit « toute forme de hasard est bannie de la foi des chrétiens car ils voient la main de Dieu derrière toute chose ». Mais nous, chers amis, nous ne le voyons que dans de tels rendez-vous divins. Et il faut parfois que notre Dieu sorte de l'ombre de manière éclatante pour que nous puissions nous souvenir que tout est sous son contrôle, depuis ses rendez-vous absolus jusqu'aux petites tâches quotidiennes qui composent votre journée. Rien n'est le fruit du hasard dans ce monde. Et si rien n'est simple, si rien n'est jamais acquis, nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Regardez pour finir le verset 6. Verset 6, le roi interrogea la femme, elle lui raconta tout. Puis le roi lui désigna un haut fonctionnaire à qui il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Enfin, une histoire qui se termine bien. Les précédentes, c'était des gens qui se faisaient tuer, un officier qui se fait piétiner. Enfin, nous avons une femme qui obtient une bénédiction particulière. Et je crois que ce texte, et ce dernier verset en particulier, nous donne deux leçons personnelles pour nous. La première, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Ok, c'est facile à dire. C'est facile, voyez, à se le répéter jour après jour, dimanche après dimanche. Dieu ne nous abandonne pas. Mais, chers amis, Dieu ne nous abandonne vraiment pas. Et je voudrais vous confesser aujourd'hui mon niveau d'irritation quand on est arrivé au Québec et que les soucis administratifs, les galères pour trouver un véhicule, les galères pour trouver un logement, le fait d'aller de maison en maison nous embêtait, le fait de savoir et l'angoisse de savoir si Elodie allait pouvoir trouver un stage pour pouvoir exercer en tant que médecin, etc., etc. Toutes ces choses-là qui nous tourmentaient. Chaque centimètre carré de notre année s'est déroulé. Mais de manière merveilleuse, Dieu nous a gardés et à aucun moment je peux dire que j'ai eu confiance en Dieu comme j'aurais dû. Et je vous le confesse ouvertement aujourd'hui et c'est en regardant en arrière qu'on se dit « Waouh, t'as tellement géré quoi !» Quand Elodie a commencé à travailler en tant que médecin, son chef lui a dit « Waouh, on vous attendait pas aussitôt, ça a été vite quand même, d'habitude vous mettez beaucoup plus de temps que ça. » Et nous, on était en train de râler en disant « ça va pas assez vite, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où elle est ta providence? Où elle est ta souveraineté ?» Je vous promets que je priais comme ça. Incroyable. Et il ne nous laisse pas tomber. Aucun élément de sa providence et de sa grâce n'échappe à son contrôle absolu. C'est lui qui gère. Vous pouvez, à certains moments de votre vie, suivre l'appel de Dieu ou bien vous conformer vos vies à ses commandements. Et puis certains jours, c'est ça, vous êtes dans l'angoisse et c'est comme s'il y avait un plafond d'airain au-dessus de votre tête empêchant votre prière de passer. Vous avez l'impression que vos circonstances se retournent contre vous comme si elles étaient devenues vos ennemis ou des armes contre vous. Vous pensez que Dieu vous a abandonné et comme les enfants d'Israël, vous criez et vous dites à Dieu « Pourquoi tu ne nous laisses pas retourner en Égypte ? J'étais tellement bien quand j'étais pas chrétien. C'était cool au moins, j'avais le fun. Hein ?» Combien de fois ne nous disons pas ces choses-là ? Mais Dieu ne vous abandonne pas. Jamais il vous laissera. Il ne vous a pas délivré des chimères de votre péché pour vous envoyer en enfer, et même les circonstances les plus dures qui semblent se liguer contre vous ne font partie de rien d'autre que de son plan bienveillant à votre égard. Et on commence à se connaître, vous et moi, maintenant. Ça fait combien de temps ? Un an que je suis ici, on se parle, on en a eu des entretiens pastoraux. Vous savez que vous avez tous vos petits sujets qui vous tourmentent. J'ai les miens. On est tous pareils, on est fait du même bois. On est des êtres humains, pécheurs, déchus, qui, naturellement, doutons de la providence de Dieu. Même les circonstances les plus dures qui se liguent contre nous sont dans sa main. Il accomplira son plan bienveillant en Christ. Et mettez-vous un post-it mental avec marqué « tsunami » dessus et pensez-y chaque fois que vous doutez. On a besoin de s'en souvenir, chers amis. Dieu ne nous abandonne pas. C'est ça la première leçon de ce texte. Oui, c'est bateau. Oui, c'est quelque chose qu'on devrait savoir par cœur. Mais on a besoin, encore une fois, de se le faire rappeler aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est valable pour tous ceux qui sont en alliance avec lui. La deuxième leçon, je dirais, c'est comme la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre. C'est que Dieu répond à nos requêtes au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Oui, bien sûr, je fais référence ici à Éphésiens 3, 20 et 21, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que la tsunamite expérimente. Elle vient pour récupérer ses possessions, elle n'est même pas sûre de les avoir. Et elle récupère en plus, regardez bien, tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Ça c'est pas vraiment attendu, ça. Ça, c'était comme si elle avait donné son champ en location à quelqu'un et les revenus qu'elle en a récupérés, le roi les lui rend. J'ai une question simple pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu peut réellement faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez ? Je préparais ma semaine pour le blog tout à l'heure, ce matin. Je relisais un article que Kevin DeYoung a écrit sur la convoitise. Il dit, en fait, le problème de la convoitise, c'est que nous ne désirons pas assez. On calibre mal nos désirs, ils sont mal orientés et on se tourne vers des choses trop basses. Comme C.S. Lewis l'a écrit, c'est comme un enfant, on ressemble à ça, à un enfant qui joue dans un bidonville de boue sans savoir que peut-être on pourrait faire un truc qui s'appelle partir en vacances et aller à la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà à quoi on ressemble quand on place nos exigences de vie. De l'argent, c'est tellement que dalle, c'est rien pour Dieu. Des biens, des choses qui nous donneraient comme un sentiment de confort et d'assurance, c'est désirer trop peu, les amis. Dieu lui-même, voilà qui est bon. Car lui pourra nous donner toutes ces choses en abondance, s'il le veut, s'il juge que c'est bon pour nous. Et dans tous les cas, même quand les coups durs viennent, comme cette tsunamite qui voit son jour passer au moment de la famine, et elle se dit « j'ai tout perdu, je dois partir », on la voit revenir après la famine, et on la voit obtenir encore plus que ce qu'elle pensait récupérer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire une telle chose pour vous aussi ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous voudrions demander à Dieu qu'au travers de cette prédication, qu'au travers de ce texte, il aiguise notre foi, il puisse nous rendre capables de lutter contre l'incrédulité toutes les fois où nous mettons en question la providence de Dieu pour notre bien ? Il nous aime, il veut notre bien, et nous donnera au-delà de ce que nous demandons, pensons. N'est-ce pas ce Dieu-là que nous voulons adorer et à qui nous voulons rendre gloire ? Prions. Nous te rendons gloire, Seigneur, de ce que non seulement tu as la capacité et tu es celui seul qui peut agir comme tu l'as fait envers cette tsunamite et envers nous, Seigneur, mais aussi parce que tu le fais en nous considérant avec amour, en étant en alliance avec nous, en étant fidèle à ton alliance et en te rappelant sans cesse à nous, mon Dieu. Je vois tellement d'incrédulité dans mon cœur et je sais que c'est quelque chose que le genre humain partage avec moi, mon Dieu. Et je voudrais te prier pour que tu puisses encourager mes frères et mes sœurs, mais aussi moi-même aujourd'hui, Seigneur, alors que nous regardons à ce texte, que nous regardons à toi, que nous voulons nous souvenir que ta main distribue de manière bienveillante toutes choses, parce que tu ne nous abandonnes pas, mais en plus tu nous donneras même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. C'est tellement bon de voir que nous avons un Dieu tel que toi. Et je veux te prier pour qu'aujourd'hui, si qui que ce soit, Seigneur, ne te connaît pas dans cette salle, Seigneur, donne-lui le désir de vouloir se tourner vers toi et donne-lui un cœur, Seigneur, pour désirer ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il puisse désirer de plus grand, à savoir ta personne, ta présence dans sa vie, Seigneur. Oui, nous voulons prier, mon Dieu, pour te dire que nous t'aimons, mais nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, nous t'aimons en retour, Seigneur, nous t'aimons parce que nous te voyons à l'œuvre, dans ta providence, dans la manière dont tu nous diriges, Seigneur. Mais donne-nous un cœur aujourd'hui pour t'aimer tel que tu es, pour t'aimer pour qui tu es, Seigneur, avant de t'aimer pour ce que tu fais. Seigneur, bénis-nous ensemble pour que nous ayons une telle foi. Libère-nous, Seigneur, de notre confiance dans nos possessions, dans nos circonstances, dans notre matérialisme. Seigneur, rappelle-nous que rien n'est jamais acquis, que rien n'est jamais simple, mais que tu es le maître de nos circonstances et que le hasard n'existe pas. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore une fois aujourd'hui. Et nous te prions pour que nous soyons encore bénis par la suite de ce culte, alors que tu viens vers nous pour nous bénir d'une manière spéciale. Amen.